Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans Le Guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, il reste quelques minutes à l'émission. On en profite pour répondre à quelques questions des lecteurs. On a Valérie qui vient d'acheter avec son mari une roulotte de 24 pieds qui pèse 4800 livres. Ils envisagent acheter un Audi Q7 2018 pour la tirer. Ce véhicule remplacerait leur Honda Pilot 2014. Okay. Dans le manuel du propriétaire, on ne recommande pas l'utilisation de barres de torsion. Donc, on se demande quoi faire. Est-ce qu'on doit en installer quand même ou le véhicule est capable de tirer cette charge-là sans l'ajout de barre de torsion. Il prévoit partir plusieurs mois explorer l'Ouest canadien et américain avec ce véhicule-là. Est-ce qu'il y aura un autre véhicule qui sera plus adapté à ce mandat-là?
Bien, si vous aimez le Q7, bon, évidemment, là, le Q7 sera un véhicule plus cher à entretenir qu'un pilote. Là.
C'est deux univers bien différents.
Vous le savez, mais le Q7, c'est un véhicule qui a atteint une maturité en matière de fiabilité qui est sans dire que c'est sans tâche, c'est beaucoup mieux que ça a déjà été. Faut juste savoir que les coûts d'entretien sont faramineux par rapport à ceux d'un Honda Pilot. Maintenant, le Q7 est assurément un véhicule capable de remorquer cette charge-là. Le danger, c'est si vous montez à 6 000, 6 500 livres, là, on s'en vient limite.
Mais quand on est sous les 5 000...
Mais un Q7 est un véhicule facilement capable de tirer ce véhicule-là sans être obligé d'aller ajouter des accessoires. Alors, moi, je ne craindrais aucunement les capacités du Q7. Suffit de regarder les capacités qu'on va offrir du côté de l'Europe. Je ne les ai pas sous les yeux, mais on doit être à 2-3 000 livres de plus facilement par rapport à ce qu'on annonce ici en Amérique du Nord parce que c'est des véhicules qui sont capables... on a une bonne mécanique, on a une suspension qui est adaptée pour ça, on a un châssis qui a été développé en conséquence. Le véhicule est capable de le faire, donc non, ça ne m'inquiète pas du tout.
On a Francis qui nous mentionne que certains médias font état d'une fiabilité aléatoire pour le Jeep Compass. Que doit-il en conclure? Il pensait se procurer un modèle 2020 Limited avec toit panoramique.
Est-ce que je craindrais réellement la fiabilité du Compass? Pas nécessairement. Je crois pas que c'est un véhicule qui va être très durable à long terme. Le moteur, c'est hyper ordinaire. On a connu des ratés avec le moteur Tiger Shark. Côté freinage, côté suspension, c'est très ordinaire aussi. Mais la qualité de construction, ça va. Le problème, c'est que c'est probablement le moins bon achat qu'on puisse faire dans le segment des utilitaires compacts.
Il existe tellement mieux.
Il y a tellement d'options. Avant d'acheter un Compass, vous allez acheter une Forester, vous allez acheter un RAV4. Vous allez acheter...
Voilà.
Puis vous allez me dire, on offre peut-être des rabais avec le Compass actuellement, mais c'est tellement un mauvais achat sur le plan financier que le rabais qu'on peut vous octroyer aujourd'hui, la dépréciation va être si forte, le désintérêt pour ce véhicule-là dans le marché d'occasion va tellement vous affecter lors de la revente que vous êtes beaucoup mieux de payer un peu plus cher pour un véhicule comme un Forester, comme, bon, peu importe ce que vous allez choisir. Je pense au Forester parce que le Compass est quand même un véhicule qui a un petit peu plus de capacité hors route que la moyenne de ses concurrents. Alors, le Forester est pour moi une alternative très intéressante au Compass, mais non, il existe beaucoup mieux dans ce segment-là. Le Compass est également un peu plus petit en termes d'habitabilité que la moyenne des autres véhicules. Je le comparais peut-être au Mazda CX-5 en termes d'espace intérieur. Alors ça aussi, c'est pas nécessairement son avantage. Bref, c'est un des moins vendus du segment. Vous aurez compris pourquoi. Moi, j'éviterais d'aller là.
On a Luc Éric qui a un budget de 30 000 $ tout inclus. Donc, on ne rajoute pas les taxes, on rajoute aucun autre frais. Ouais. 30 000 $ tout rond. Il désire de l'espace, une certaine sportivité, des accélérations franches, une consommation d'essence raisonnable et par-dessus tout, une bonne fiabilité. Il veut conserver le véhicule 10 ans. Est-ce qu'une Kia Forte 2021 serait un bon achat?
Bon, la sportivité, là, est-ce qu'on parle d'une version turbo-compressée? Est-ce qu'on parle à 30 000 $ tout frais inclus, taxes inclus? Je pense pas qu'on sera une version turbo-compressée. C'est vraiment pas méchant, une Kia Forte, certainement. Par contre, j'ai des réserves quant à la fiabilité mécanique parce qu'on a connu des problèmes avec la transmission. Que ce soit la IVT, que ce soit la transmission double embrayage, même le moteur, on a connu des ratés à ce niveau-là. Oui, le véhicule est bien garanti, c'est correct, mais si vous voulez le garder 10 ans, ça vous prend une garantie qui va vous couvrir pendant très longtemps parce que c'est pas une mécanique qui est sans reproche. Et le problème, c'est que contrairement à Hyundai, ben, Kia est un peu plus sévère ou moins compréhensif, entre guillemets, que Hyundai lorsque vient le temps de remplacer un moteur ou une transmission parce qu'il y a eu une défaillance. Alors, je vous dirais, oui, c'est une voiture intéressante, mais à comparaison égale, j'irais plus chez Hyundai pour acheter la même mécanique dans une autre carrosserie parce que là, vous risquez d'avoir un service après-vente qui va être plus à vos avantages s'il y a un bris mécanique majeur sur le véhicule. Ça ne veut pas dire de ne pas acheter le véhicule. Vous risquez peut-être d'avoir une voiture qui n'aura pas de problème, mais on a connu actuellement des ratés. Là, maintenant, est-ce que vous voulez une boîte manuelle? Est-ce que vous voulez une IVT, une double embrayage?
Il y a la Forte aussi à Hyon pour laquelle on n'a pas d'équivalent chez Hyundai avec les Elantra.
On n'a plus d'équivalent.
Oui, parce qu'on l'a déjà
parce
eu.
Parce qu'on l'a déjà eu jusqu'à l'an passé. Mais évidemment, l'Elantra a été complètement renouvelée cette année. D'ailleurs, j'en conduis une au moment où on se parle. Et c'est quand même une voiture sur le plan dynamique qui est intéressante. Mais je n'aime vraiment pas le rendement de la transmission double embrayage. En ville, c'est un cauchemar. C'est comme si tu faisais glisser l'embrayage d'une boîte manuelle de façon interminable. C'est un peu comme quelqu'un qui apprend à conduire manuel puis tu sais pas conduire. Là.
Ah oui,
la voiture d'école, c'est à toutes les fois. Il y a un effet d'élasticité vraiment agaçant. Ça, c'est le point qui m'a agacé. Alors, est-ce que ça serait la voiture la plus intéressante? Moi, je pense que d'aller, par exemple, vers une Mazda 3, ça serait un choix peut-être un peu plus sensé. Fiabilité qui est garantie.
Ben voilà, on répondra à tous ces critères-là.
La voiture est dynamique, elle a un beau look, elle est amusante, elle a une garantie kilométrage illimité. Sur le long terme, c'est pas aussi long, bien sûr, mais ça peut être une alternative assez intéressante, la Mazda 3 par rapport à la Forte, qui est pas vilaine, mais qui serait peut-être pas mon premier choix.
Merci Antoine, bonne semaine.
Bonne semaine.